Nous voici en ce début de septembre, à quelques jours de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, et donc dans 4 jours concrètement, ce sera cette semaine. Il est difficile de ne pas mettre en relation les enseignements du jour avec cette personnalité inouïe, unique, dans tout le genre humain qu'est l'Immaculée Conception. Jésus, elle est là. L'Immaculée, c'est la grande œuvre de la sagesse divine. On a ce beau texte, là, le premier qui a été lu, là, du livre de la sagesse, et qui nous dit, bien, quelle est la condition humaine quand on vit sans Dieu, ou quelle est la condition humaine lorsqu'on vit avec lui. Et la conclusion, c'est celle-là même de Jésus, c'est qu'il faut vivre avec le Seigneur. L'homme limité dépend de Dieu comme le nourrisson dépend de ses parents. Jamais on n'a vu un nourrisson prendre l'initiative d'aller chercher sa nourriture. Le nourrisson pleure. Il en va de même pour chacun d'entre nous, eh bien, vis-à-vis de la vie. Cette vie qui est en Dieu et pas ailleurs. On aura beau explorer tout le cosmos, la vie, elle est au-delà du cosmos, elle est en Dieu. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu, nous dit l'auteur du livre de la sagesse. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur. Comme est grande notre limitation. Nous dépendons complètement de Dieu et nous n'en avons même pas conscience. Comme le nourrisson incapable de formuler la nature et la réalité de sa dépendance vis-à-vis de ses parents. Il est trop jeune pour conceptualiser quoi que ce soit. Il le ressent, il en a conscience, mais c'est tout. Il en va de même de chacun d'entre nous vis-à-vis de Dieu. Nous sommes vraiment comme des nourrissons. Voyez le monde contemporain qui nous offre continuellement l'exemple d'une espèce de folie collective qui détruit tout ce qui avait été construit auparavant. Et qu'est-ce que c'est? C'est cette crise de l'intelligence commencée il y a déjà pas mal de siècles, mais qui ne fait qu'empirer parce que, en dehors de Dieu, notre intelligence ne fonctionne plus. Parce que Dieu est à l'origine de la sagesse. Dieu est la lumière de l'intelligence. Il la finalise. Il lui donne son point focal. Sans elle, eh bien, l'homme est vraiment marche à tâtons comme dans l'obscurité. Oui, voilà ce que le livre de la sagesse nous dit. L'homme, il peut tout juste utiliser ce qui est à sa portée. Et puis, quant à savoir ce qu'il y a dans les cieux, nous le savons un peu ce qu'il y a dans les cieux, mais nous ignorons tout du fonctionnement de la matière, et pourtant, c'est ce qui est à la portée de nos mains. Ben, même ça, nous ne le savons pas. On vit, les hommes ont l'impression, parce qu'ils ont quelques moteurs, quelques petites choses comme ça, qu'ils vivent dans un monde moderne. Mais on vit dans un monde préhistorique, au sens technique du terme. On vit dans un monde totalement préhistorique, incapable de générer de l'énergie. On en est encore à brûler de l'huile ou du pétrole pour fournir quelque chose. Et alors on a réussi quand même à atteindre la fusion nucléaire, mais avec quel mal. Donc je vous dis ça pour vous montrer à quel point nous sommes tâtonnants, à quel point nous sommes encore sous le coup du constat de l'auteur du livre de la sagesse. Et nous avons, comme il le dit lui-même, vraiment besoin de Dieu. Si nous ne sommes même pas capables, ou à grand peine, à tant de peine, de comprendre les lois les plus élémentaires de la matière, pour comprendre Dieu et ses volontés, alors là, sans qu'il nous le dise, c'est impossible. D'où la nécessité de la révélation, d'où la nécessité de l'Église qui est la gardienne de cette révélation. L'homme limité qui ne peut ou ne veut vivre que de lui-même, eh bien cet homme-là est non seulement en proie à une intelligence enténébrée, mais aussi il sera en proie à générer la violence et l'injustice. Et ça, nous le voyons à nouveau. dans notre Occident, qui a été, où l'Église, enfin le christianisme, la doctrine chrétienne, a été la lumière des nations pendant des siècles, et où elle est mise complètement de côté depuis quelques siècles, le XVIIIe siècle, eh bien, nous nous apercevons que de plus en plus, eh bien, la violence, l'injustice ne font que croître, et on veut structurer un monde autour de ces anti-valeurs. On veut structurer le monde autour d'un néant moral. C'est-à-dire aucune valeur. Pas de bien, pas de mal, juste des contrats. On se met d'accord et puis hop. Et autour de quoi? D'un dieu mort, l'argent. Le livre de la sagesse nous dit et nous réveille. Il nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans cette sagesse qui est donnée d'en haut, cet Esprit Saint qui nous vient d'en haut. Eh bien, nous ne pouvons rien faire. L'Immaculée Conception, la Vierge Marie, elle est l'image tangible, visible, des intentions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ses créatures, à travers chacun d'entre nous? Il veut pour nous une pureté de cœur qui soit vraie. Et le contraire de la pureté, l'impureté donc de cœur, c'est l'égoïsme, c'est l'attachement à soi. D'où la recommandation du Christ, hein. Dépassez, renoncez à vous-même. Ça ne veut pas dire se nier, ça ne veut pas dire s'anéantir. Ça veut dire mettre quelqu'un d'autre plus haut que soi. Et là, on renonce à soi comme un serviteur renonce à être le maître, quoi. Mais nous ne pouvons mettre aucun homme, aucune créature au-dessus de nous. Nous ne pouvons mettre que Dieu, notre Créateur. Et alors là, ça fonctionne bien. Nous pouvons retrouver de la sorte une pureté de cœur en suivant docilement ses enseignements. L'homme est fait pour ça, pour suivre docilement les enseignements de celui qu'il a créé, comme les animaux suivent docilement l'enseignement de la nature. Mais nous, créatures spirituelles, libres, bien nous nous sommes détachés, nous sommes révoltés, nous sommes devenus seuls et isolés, coupés de Dieu par le péché. Seul un amour inconditionnel de Dieu, tel que l'Immaculée en est l'image, l'Immaculée Conception, donc cette femme, toute donnée à Dieu, qui n'a aucun retour sur elle-même, qui n'est en proie à aucune forme d'attachement terrestre désordonné, des convoitises, eh bien, cette femme nous montre, dans sa perfection spirituelle, ce qu'est La condition, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et donc, elle est tellement dans cet amour total de Dieu qu'elle va faire venir Dieu physiquement sur la terre. Et c'est bien sa mission. Mais elle n'aurait pas pu remplir cette mission sans la condition sine qua non d'un amour total pour Dieu. Un renoncement, donc, mais vous voyez, c'est positif le renoncement. L'amour nous fait renoncer à nous-mêmes pour celui que nous aimons, et celui-là ne peut être que Dieu. Le livre de la sagesse nous parle des esprits, de l'esprit humain, aux mille pensées. Vous voyez les médias. Les médias, ce sont ces mille pensées qui explosent. Les médias nous parlent de tout et ne nous disent rien. C'est le propre de l'homme qui est seul, ça. Les médias en sont le miroir. On passe son temps à passer d'une thématique à une autre, d'un problème à un autre, d'un spectacle à un autre, sans jamais rien retenir au final, sans jamais rien vivre de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous discutons, voyons, etc., échangeons. L'homme aux mille pensées, c'est une simple girouette qui tourne indéfiniment sur son axe, sans jamais s'arrêter, sans jamais se reposer en Dieu et recevoir ainsi la vie. La foi, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est la sagesse d'en haut. La vie en Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu, c'est toutes les personnes de la Trinité, mais celui que nous recevons dans notre vie terrestre, c'est l'Esprit Saint. Et à la communion, nous recevons Jésus-Christ. Quelle chance! Et bien là, nous recevons la vie. Nous recevons avec la vie, la sagesse, pas seulement une nourriture pour notre cœur, mais une nourriture pour notre esprit, pour notre intelligence. La foi nous donne vraiment un bon sens. J'aime bien cette expression, un bon sens concret. Elle ne nous dit pas dans toutes les circonstances de la vie tout ce que nous devons faire. Vous savez, au XVIIe siècle, il y a eu la casuistique. Les jésuites ont voulu essayer de mettre en bouteille, en théorie, donc de théoriser toutes les circonstances de l'existence pour pouvoir donner la réponse de la foi en fonction de ces circonstances. C'était absurde. Et pourtant, on sait, les hommes de ce temps se sont passionnés pour cela. Et la casuistique, l'étude des cas particuliers, tout ça. Dieu n'agit pas comme ça envers nous, parce que nous sommes des créatures libres. Il nous dit, il nous donne une grande orientation, une grande lumière et une intelligence ordonnée à cette lumière, un bon sens, qui permet en chaque circonstance à chacun d'entre nous d'être juge, de juger moralement et même, je dirais, matériellement, de ce qu'il convient de faire. C'est l'esprit des lois et non pas comme dans notre société contemporaine, hein, où on assiste à une multiplication de toutes les permissions et interdictions possibles et imaginables, parce qu'on n'a plus l'esprit de la loi. Et parce que la loi contemporaine n'a pas d'esprit, puisqu'elle n'a pas de vérité, elle ne repose sur aucune, comme on disait, philosophie, elle ne repose que sur le néant, des accords. Donc, on est obligé, le gouvernant contemporain est obligé de dire pour chaque circonstance ce qu'il faut faire, ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Comme dans la casuistique. Pour bénéficier du discernement de l'esprit des lois, il faut avoir la sagesse d'en haut. Et il faut donc faire reposer les lois sur la vérité et non pas sur le néant. L'homme qui a la foi reçoit ce patrimoine merveilleux, ce trésor qu'est la sagesse. La sagesse est amie des hommes, nous dit ailleurs le livre de la première lecture. Jésus, lui, dans le passage que nous avons lu, eh bien, nous parle de disciples. Alors, il y a des cas où le disciple, c'est le groupe des 12 et ceux qui gravitent autour d'eux. Et dans d'autres cas, comme ici, le disciple, c'est tous les chrétiens. Pour être chrétien, pour avoir une vraie foi, eh bien, il faut être disciple. Et Jésus en donne ici les conditions. Les conditions, c'est un dépassement préalable et qui est un dépouillement. Il faut mettre Dieu au-dessus de tout dans nos vies. Et c'est ça le renoncement à soi-même. C'est pas, je sais pas, obéir à tout le monde, ce serait absurde, ce serait contre la sagesse. Non, c'est mettre quelqu'un de plus grand au-dessus de soi. Et il n'y en a qu'un seul qui puisse prétendre à cela, c'est notre Père, celui qui est aux cieux. Donc, c'est ce premier grand dépouillement. Le second, c'est méditer sans cesse la nécessité de la passion. La passion du Christ, on la réserve trop souvent à lui seul. Mais si Jésus a vécu la passion, c'est parce qu'elle est nécessaire à chacun d'entre nous. Dans les fruits qu'il nous a donnés, la possibilité de la résurrection, bien évidemment. Mais aussi, ça nous donne une force et même la logique de la vie dans le monde. L'homme immaculé avant le péché, la logique du monde était simple. Quand il agissait bien, eh bien, tout lui réussissait. Adam et Ève au jardin du paradis terrestre, tout lui réussissait à cet homme-là. Il suffisait qu'il agisse droitement en fonction de la matière, en fonction du spirituel, en fonction de l'humain aussi, du psychologique, et tout allait bien. Or, nous vivons-nous dans un monde où ça ne marche pas comme ça. Vous avez beau poser l'acte juste, c'est presque à chaque fois le contraire qui se produit. c'est-à-dire une réaction négative et voire chaotique aux actes que nous posons. Pourquoi ? Parce que c'est la passion qui nous l'enseigne. Nous sommes dans le combat de la lumière et des ténèbres. Et si nous ne nous tenons pas au pied de la croix, nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas l'intérioriser, et on se scandalise aussitôt. Pourquoi n'ai-je pas droit au bonheur sur la terre ? Seul l'Immaculé pourrait encore dire ça. Seul l'homme qui n'a pas péché peut dire ça. Mais pour comprendre, pour avoir vraiment à être lucide de ce point de vue-là, il faut se tenir au pied de la croix et voir l'innocent réduit comme Jésus a été réduit sur la croix. Donc, l'amour de Dieu, là Jésus insiste beaucoup là-dessus, et toute l'Écriture bien évidemment, c'est ce qui nous sauve de la solitude et de la limitation. La solitude, il n'y a rien de pire au niveau religieux, ça nous exclut du beau royaume du Seigneur. L'amour de Dieu, mettons toujours l'amour de Dieu au-dessus de tout ce que nous aimons sur cette terre, nous-mêmes d'abord la plupart du temps, mais aussi nos proches, heureusement. Mais qu'on n'invoque pas l'amour des proches comme condition ultime du salut. Il ne suffira pas d'avoir aimé ses proches qui nous le rendent, comme dit Jésus ailleurs. Quand tu donnes un repas, eh bien, n'invite pas seulement ceux qui vont pouvoir te le rendre, mais invite aussi les autres. Et on ne peut inviter les autres en quelque sorte, c'est-à-dire accueillir et regarder les hommes et les traiter d'une façon égale selon l'Évangile, que si Dieu est au-dessus de nous. Il faut le faire non pas pour l'amour de nous-mêmes, pour l'image que nous avons de nous-mêmes, pour je sais pas quoi. Il faut le faire pour le nom de famille, pour faire briller notre nom de famille dans le monde. La belle affaire. Non, il faut le faire pour Dieu, pour faire plaisir à Dieu, pour l'honneur de Dieu. Et alors là ça marche. Et là, nous réussissons dans la vertu. La vie est en Dieu, je le répète, et c'est le grand message de l'Immaculée, ça. Elle nous montre, par le dépassement total d'elle-même, le don total d'elle-même, elle s'est laissée envahir par l'amour pur. Et l'amour pur, c'est forcément l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu n'entre jamais en contradiction avec les autres formes d'attachement. Elle les bonifie, au contraire. Elle les rend saints, ces attachements. Mais sans cet amour de Dieu, eh bien nos attachements deviennent mauvais. Ils deviennent égoïstes, ils deviennent source d'orgueil, ils deviennent comme un fruit qui pourrit. Et on n'y peut rien, il faut mettre Dieu vraiment dans sa vie. Donc, pensons que grâce à Dieu, grâce à la foi, il y a ce dépassement possible eh bien de la vie quotidienne, de ses pesanteurs et de ses limitations. Ce que j'appelle la vie quotidienne, la vie matérielle des hommes, eh bien c'est manger, boire, dormir, et c'est ne rien voir de l'enjeu de la vie, de sa beauté, de sa profondeur et aussi de sa tragédie. Parce qu'au jour de la mort, réellement, nous qui sommes si fragiles, qui ne vivons que l'espace d'un instant, eh bien nous nous rendrons compte que tous ces attachements au monde étaient des pièges, des morsures, des poisons. Au cours de cette Eucharistie, demandons l'esprit de sagesse au Seigneur. Accueillons-le. Accueillons-le sous la forme de l'amour, accueillons-le sous la forme de la vérité.